La stratégie que les trois puissances suivent toutes trois, ou prétendent suivre, est la même. Le plan est, par une combinaison de luttes, de marches, de coups de force au moment opportun, d'acquérir un anneau de base encerclant complètement l'un ou l'autre des états d'un rival, puis de signer un pacte d'amitié avec ce rival, et de rester avec lui en termes de paix assez longtemps pour endormir sa suspicion. Pendant ce temps, des fusées chargées de bombes atomiques seraient amoncelées à tous les points stratégiques. Finalement, elles seraient toutes allumées simultanément, et leurs effets seraient si dévastateurs qu'ils rendraient impossible toute représaille. Il serait temps alors de risquer un pacte d'amitié avec la puissance mondiale restante, en vue d'une autre attaque. Ce plan, il est à peine besoin de le dire, est un simple rêve éveillé impossible à réaliser. De plus, il n'y a jamais aucune bataille, sauf dans les territoires disputés autour de l'équateur et du pôle. Aucune invasion de territoire ennemi n'est jamais entreprise. C'est ce qui explique qu'en certains endroits, les frontières entre les super-États soient arbitraires. L'Eurasia, par exemple, pourrait aisément conquérir les îles britanniques qui, géographiquement, font partie de l'Europe. D'un autre côté, il serait possible à l'Océanie de pousser ses frontières jusqu'au Rhin, ou même jusqu'à la Vistule. Mais ce serait violer le principe suivi par tous, bien que jamais formulé, de l'intégrité culturelle. Si l'Océanie conquérait les territoires connus à une époque sous les noms de France et d'Allemagne, il lui faudrait ou en exterminer les habitants, tâche d'une grande difficulté matérielle, ou assimiler une population d'environ 100 millions d'habitants, qui, en ce qui concerne le développement technique, sont approximativement au niveau océanien. Le problème est le même pour les trois super-États. Il est absolument nécessaire à leur structure qu'ils n'aient aucun contact avec l'étranger, sauf, dans une mesure limitée, avec les prisonniers de guerre et les esclaves de couleur. Même l'allié officiel du moment est toujours regardé avec une sombre suspicion. Mis à part les prisonniers de guerre, le citoyen ordinaire de l'Océanie ne pose jamais les yeux sur un citoyen de l'Eurasia ou de l'Estasia, et on lui défend d'étudier les langues étrangères. Si les contacts avec les étrangers lui étaient permis, il découvrirait que ce sont des créatures semblables à lui-même et que la plus grande partie de ce qu'on lui a raconté d'eux est fausse. Le monde fermé, scellé dans lequel il vit serait brisé et la crainte, la haine, la certitude de son bon droit desquels dépend sa morale pourrait disparaître. Il est par conséquent admis de tous les côtés que si souvent que la Perse, l'Égypte, Java ou Ceylan puissent changer de main, les frontières principales ne doivent jamais être franchies que par des bombes. En dessous de tout cela, il est un fait, jamais exprimé tout haut, mais tacitement compris et qui inspire la conduite de chacun, c'est que les conditions de vie dans les trois super-États sont sensiblement les mêmes. Dans l'Océanie, la philosophie dominante s'appelle l'Anksok. En Eurasia, elle s'appelle néo-bolchevisme. En Estasia, elle est désignée par un mot chinois habituellement traduit par « culte de la mort », mais qui serait peut-être mieux rendu par « oblitération du moi ». On ne permet pas aux citoyens de l'Océanie de savoir quoi que ce soit de la doctrine des deux autres philosophies. Mais on lui enseigne à les exécrer et à les considérer comme des outrages barbares à la morale et au sens commun. En vérité, les trois philosophies se distinguent à peine l'une de l'autre. Et les systèmes sociaux qu'elles supportent ne se distinguent pas du tout. Il y a partout la même structure pyramidale, le même culte d'un chef semi-divin, le même système économique existant par et pour une guerre continuelle. Il s'ensuit que les trois super-États non seulement ne peuvent se conquérir l'un l'autre, mais ne tireraient aucun avantage de leur conquête. Au contraire, tant qu'ils restent en conflit, ils se soutiennent l'un l'autre comme trois gerbes de blé. Comme d'habitude, les groupes directeurs des trois puissances sont, et en même temps ne sont pas, au courant de ce qu'ils font. Leur vie est consacrée à la conquête du monde, mais ils savent aussi qu'il est nécessaire que la guerre continue indéfiniment, et sans victoire. Pendant ce temps, Le fait qu'il n'y ait aucun danger de conquête rend possible la négation de la réalité qui est la caractéristique spéciale de Langsok et des systèmes de pensée qui lui sont rivaux. Il est ici nécessaire de répéter ce qui a été dit ci-dessus. C'est qu'en devenant continuelle, la guerre a changé de caractère fondamental. Anciennement, une guerre, par définition presque, était quelque chose qui tôt ou tard prenait fin, d'habitude par une victoire ou une défaite décisive. Anciennement aussi, la guerre était un des principaux instruments par lesquels les sociétés humaines étaient maintenues en contact avec la réalité physique. Tous les chefs, à toutes les époques, ont essayé d'imposer à leurs adeptes une fausse vue du monde. Mais ils ne pouvaient se permettre d'encourager aucune illusion qui tendrait à diminuer l'efficacité militaire. Aussi longtemps que la défaite signifiait perte de l'indépendance, ou quelque autre résultat généralement tenu pour indésirable, les précautions contre la défaite devaient être sérieuses. Les faits matériels ne devaient pas être ignorés. Dans la philosophie, la religion, l'éthique ou la politique, deux et deux peuvent faire cinq. Mais quand le chiffre 1 désigne un fusil ou un aéroplane, deux et deux doivent faire quatre. Les nations inefficientes sont toujours tôt ou tard conquises, et la lutte pour l'efficience est ennemie des illusions. De plus, il est nécessaire pour être efficient d'être capable de recevoir les leçons du passé, ce qui signifiait avoir une idée absolument précise des événements du passé. Journaux et livres d'histoire étaient naturellement toujours enjolivés et influencés, mais le genre de falsification actuellement pratiqué aurait été impossible. La guerre était une sauvegarde même de la santé, et dans la mesure où les classes dirigeantes étaient affectées, c'était probablement la plus sûre des sauvegardes. Tant que les guerres pouvaient se gagner ou se perdre, aucune classe dirigeante ne pouvait être entièrement irresponsable. Mais quand la guerre devient littéralement continuelle, elle cesse aussi d'être dangereuse. Il n'y a plus de nécessité militaire quand la guerre est permanente. Le progrès peut s'arrêter et les faits les plus patents peuvent être niés ou négligés. Comme nous l'avons vu, les recherches que l'on pourrait appeler scientifiques sont encore poursuivies en vue de la guerre. Mais elles sont essentiellement du domaine du rêve, et leur échec à fournir des résultats n'a aucune importance. L'efficience, même l'efficience militaire, n'est plus nécessaire. En Océanie, sauf la police de la pensée, rien n'est efficient. Depuis que chacun des trois super-États est imprenable, chacun est en effet un univers séparé, à l'intérieur duquel peuvent être pratiquées en toute sécurité presque toutes les perversions de la pensée. La réalité n'exerce sa pression qu'à travers les besoins de la vie de tous les jours. Le besoin de manger et de boire, d'avoir un abri et des vêtements, d'éviter d'avaler du poison ou de passer par les fenêtres du dernier étage, et ainsi de suite. Entre la vie et la mort, entre le plaisir et la peine physique, il y a encore une distinction, mais c'est tout. Coupé de tout contact avec le monde extérieur et avec le passé, le citoyen d'Océanie est comme un homme des espaces interstellaires qui n'a aucun moyen de savoir quelle direction monte et laquelle descend. Les dirigeants d'un tel État sont absolus, plus que n'ont jamais pu l'être les pharaons ou les Césars. Ils sont obligés d'empêcher leurs adeptes de mourir d'inanition en nombre assez grand pour être un inconvénient. Et ils sont obligés de s'en tenir au même bas niveau de technique militaire que leurs rivaux. Mais ce minimum réalisé, ils peuvent déformer la réalité et lui donner la forme qu'ils choisissent. La guerre, donc, si nous la jugeons sur le modèle des guerres antérieures, est une simple imposture. Elle ressemble aux batailles entre certains ruminants dont les cornes sont plantées à un angle tel qu'ils sont incapables de se blesser l'un l'autre. Mais bien qu'irréelle, elle n'est pas sans signification. Elle dévore le surplus des produits de consommation et elle aide à préserver l'atmosphère mentale spéciale dont a besoin une société hiérarchisée. Ainsi qu'on le verra, la guerre est une affaire purement intérieure. Anciennement, les groupes dirigeants de tous les pays Bien qu'il leur fût possible de reconnaître leur intérêt commun et, par conséquent, de limiter les dégâts de la guerre, luttaient réellement les uns contre les autres. Et celui qui était victorieux pillait toujours le vaincu. De nos jours, ils ne luttent pas du tout les uns contre les autres. La guerre est engagée par chaque groupe dirigeant contre ses propres sujets. Et l'objet de la guerre n'est pas de faire ou d'empêcher des conquêtes de territoire, mais de maintenir intacte la structure de la société. Le mot « guerre » lui-même est devenu erroné. Il serait probablement plus exact de dire qu'en devenant continu, la guerre a cessé d'exister. La pression particulière qu'elle a exercée sur les êtres humains entre l'âge néolithique et le début du XXe siècle a disparu et a été remplacée par quelque chose de tout à fait différent. L'effet aurait été exactement le même si les trois super-États, au lieu de se battre l'un contre l'autre, s'entendaient pour vivre dans une paix perpétuelle, chacun inviolé à l'intérieur de ses frontières. Dans ce cas, en effet, chacun serait encore un univers clos, libéré à jamais de l'influence assoupissante du danger extérieur. Une paix qui serait vraiment permanente serait exactement comme une guerre permanente. Cela, bien que la majorité des membres du parti ne le comprennent que dans un sens superficiel, est la signification profonde du slogan du parti. La guerre, c'est la paix. Winston s'arrêta de lire pendant un moment. Quelque part, au lointain, un missile retentit. Le sentiment de bonheur d'être seul avec le livre interdit dans une chambre sans télécran n'avait pas disparu. La solitude et la sécurité étaient des sensations physiques mélangées d'une certaine manière à la fatigue de son corps, la douceur de la chaise, le contact de la brise de la fenêtre qui jouait sur sa joue. Le livre le fascinait, ou plus exactement, le rassurait. Il avait l'impression de ne rien apprendre de nouveau, mais cela faisait partie de l'attrait. Il disait ce qu'il lui aurait dit, si on lui avait permis de mettre de l'ordre dans ses pensées dispersées. C'était le produit d'un esprit similaire au sien, mais énormément plus puissant, plus systématique, moins dominé par la peur. Les meilleurs livres, se dit-il, sont ceux qui vous disent ce que vous savez déjà. Il venait de revenir au chapitre 1 quand il entendit le pas de Julia dans l'escalier et se leva de sa chaise pour la rencontrer. Elle jeta son sac à outils brun sur le sol et se jeta dans ses bras. Cela faisait plus d'une semaine qu'ils ne s'étaient vus. « J'ai le livre, » dit-il alors qu'ils se séparaient. « Hein, tu l'as ? Bien, » dit-elle sans grand intérêt. Et elle s'agenouilla immédiatement à côté du poêle à pétrole pour faire le café. Ils ne revinrent sur le sujet qu'après avoir été au lit pendant une demi-heure. La soirée était juste assez fraîche pour que cela vaille la peine de tirer le couvre-pied. Provenant d'en dessous, montait le son familier des chansons et des claquements de bottes sur les pavés. La femme musclée aux bras rouges que Winston avait vue lors de sa première visite était presque toujours dans la cour. Il ne semblait pas exister un seul moment de la journée où elle ne faisait pas des allers-retours entre le lavabo et la corde à linge tout en poussant un chant puissant. Julia s'était installée sur le côté et semblait déjà sur le point de tomber de sommeil. Il tendit la main vers le livre, qui se trouvait sur le parquet, et s'assit contre la tête de lit. « Nous devons le lire, » dit-il. « Toi aussi, tous les membres de la fraternité doivent le lire. »« Lis-le, » dit-elle les yeux fermés. « Lis-le à voix haute, c'est la meilleure façon. Ensuite, tu pourras me l'expliquer au fur et à mesure. » Les aiguilles de l'horloge indiquaient 6 heures, c'est-à-dire 18 heures. Ils avaient 3 ou 4 heures devant eux. Il soutint le livre avec ses genoux et commença à lire. Chapitre 1. L'ignorance, c'est la force. Au long des temps historiques et probablement depuis la fin de l'âge néolithique, le monde a été divisé en 3 classes. La classe supérieure, la classe moyenne, la classe inférieure. Elles ont été subdivisées de beaucoup de façons. Elles ont porté d'innombrables noms différents. La proportion du nombre d'individus que comportait chacune, aussi bien que leur attitude vis-à-vis les unes des autres, ont varié d'âge en âge. Mais la structure essentielle de la société n'a jamais varié. Même après d'énormes poussées et des changements apparemment irrévocables, la même structure s'est toujours rétablie, exactement comme un gyroscope reprend toujours son équilibre, aussi loin qu'on le pousse d'un côté ou de l'autre. « Julia, tu es réveillée ?» dit Winston. « Oui, mon amour, je t'écoute, c'est merveilleux. » Il continua à lire. Les objectifs de ces trois groupes sont absolument inconciliables. Le but du groupe supérieur est de rester en place. Celui du groupe moyen de changer de place avec le groupe supérieur. Le but du groupe inférieur, quand il en a un, car c'est une caractéristique permanente des inférieurs qu'ils sont trop écrasés de travail pour être conscients d'une façon autre qu'intermittente d'autre chose que de leur vie de chaque jour, est d'abolir toute distinction et de créer une société dans laquelle tous les hommes seraient égaux. Ainsi, à travers l'histoire, une lutte qui est la même dans ses lignes principales se répète sans arrêt. Pendant de longues périodes, la classe supérieure semble être solidement au pouvoir. Mais tôt ou tard, il arrive toujours un moment où elle perd, où sa foi en elle-même, ou son aptitude à gouverner efficacement, ou les deux. Elle est alors renversée par la classe moyenne qui enrôle à ses côtés la classe inférieure, en lui faisant croire qu'elle lutte pour la liberté et la justice. Sitôt qu'elle a atteint son objectif, la classe moyenne rejette la classe inférieure dans son ancienne servitude et devient elle-même supérieure. Un nouveau groupe moyen se détache alors de l'un des autres groupes, ou des deux, et la lutte recommence. Des trois groupes, seul le groupe inférieur ne réussit jamais, même temporairement, à atteindre son but. Ce serait une exagération que de dire qu'à travers l'histoire, il n'y a eu aucun progrès matériel. Même aujourd'hui, dans une période de déclin, l'être humain moyen jouit de conditions de vie meilleures que celles d'il y a quelques siècles. Mais aucune augmentation de richesse, aucun adoucissement des mœurs, aucune réforme ou révolution n'a jamais rapproché d'un millimètre l'égalité humaine. Du point de vue de la classe inférieure, aucun changement historique n'a jamais signifié beaucoup plus qu'un changement du nom des maîtres. Vers la fin du XIXe siècle, de nombreux observateurs se rendirent compte de la répétition constante de ce modèle de société. Des écoles de penseurs apparurent alors qui interprétèrent l'histoire comme un processus cyclique et prétendirent démontrer que l'inégalité était une loi inaltérable de la vie humaine. Cette doctrine, naturellement, avait toujours eu des adhérents, mais il y avait un changement significatif dans la façon dont elle était mise en avant. Dans le passé, la nécessité d'une forme hiérarchisée de société avait été la doctrine spécifique de la classe supérieure. Elles avaient été prêchées par les rois et les aristocrates, par les prêtres, hommes de loi et autres, qui étaient les parasites des premiers. Et elle avait été adoucie par des promesses de compensation dans un monde imaginaire, par-delà la tombe. La classe moyenne, tant qu'elle luttait pour le pouvoir, avait toujours employé des termes tels que liberté, justice et fraternité. Cependant, le concept de la fraternité humaine commença à être attaqué par des gens qui n'occupaient pas encore les postes de commande, mais espéraient y être avant longtemps. Anciennement, la classe moyenne avait fait des révolutions sous la bannière de l'égalité, puis avait établi une nouvelle tyrannie dès que l'ancienne avait été renversée. Les nouveaux groupes moyens proclamèrent à l'avance leur tyrannie. Le socialisme, une théorie qui apparut au début du XIXe siècle et constituait le dernier anneau de la chaîne de pensée qui remontait aux rébellions d'esclaves de l'Antiquité, était encore profondément infecté de l'utopie des siècles passés. Mais dans toutes les variantes du socialisme qui apparurent à partir de 1900 environ, le but d'établir la liberté et l'égalité était de plus en plus ouvertement abandonné. Les nouveaux mouvements qui se firent connaître dans les années du milieu du siècle, l'Anksok en Océanie, le néo-bolchevisme en Eurasia et le culte de la mort, comme on l'appelle communément, en Estasia, avaient la volonté consciente de perpétuer la non-liberté et l'inégalité. Ces nouveaux mouvements naissaient naturellement des anciens. Ils tendaient à conserver les noms de ceux-ci et à payer en parole un hommage à leur idéologie. Mais leur but à tous était d'arrêter le progrès et d'immobiliser l'histoire à un moment choisi.